Radio Klaxon 107.7. On est lundi 22, je crois. 20, ouais. 22 mai. Allez, on est ici aujourd'hui avec Alessia de Miguel. J'étais là hier soir au Le Libre d'Italie. Et du coup, on est aussi kidnappé pour une petite heure avec nous. On va raconter un peu plus, écouter des chansons ensemble, de la musique. Est-ce que tu as envie un peu de nous raconter du coup d'où ça vient l'intérêt pour le sud de l'Italie et pour cette musique?
Ben, au départ un peu le hasard, puisque bon, moi je suis d'origine italienne mais plutôt du centre. Et pendant longtemps, le sud de l'Italie, ça apparaissait comme une contrée un peu mystérieuse, un peu à part du monde.
Bah, ça l'est.
Et ça l'est d'ailleurs, comme j'ai pu le découvrir. Et à partir de la fin des années 80, j'ai vécu pendant une dizaine d'années avec une fille d'un petit village du Salento, à côté de Lecce. Le Salento étant la province de Lecce, la province de Brindisi et le sud de la province de Taranto. Donc le talon de la botte, quoi. Et donc voilà, j'ai donc passé beaucoup, beaucoup de temps là-bas, dans cette région. Et j'ai découvert cet univers un peu par hasard. Donc. Et donc la mère de ma compagne est la première personne qui m'a parlé de tout ce rituel qu'il y avait autour de la figure d'une araignée venimeuse. dont les victimes devaient absolument danser au son d'une certaine musique, la tarantelle, enfin, qu'on appelle aussi la pizzica, pour pouvoir se guérir. Quoi.
Et danser pendant plusieurs jours.
Danser, un minimum en général, c'était 3 jours. Quoi. Mais ça pouvait durer plus longtemps des fois, ça pouvait durer, dans certains cas, ça durait 3 semaines.
Avec des pauses.
Oui, ah oui, absolument. En général, c'est des séquences de 10-15 minutes. Avec après une phase de repos, et puis ça repart, et ainsi de suite. Ça repart, mais toujours selon le même déroulement. C'est-à-dire une première phase qui comprend une mimésis avec l'araignée, avec la figure de l'araignée. Donc une phase au sol. Et une deuxième phase qui correspond à la libération symbolique par rapport à l'araignée qui possède la personne, puisque c'est une transe de possession dont il s'agit. Et dans la deuxième phase, c'est une danse extrêmement aérienne, sur la pointe des pieds, extrêmement et très, très fatigante. Quoi, hein. Pour l'avoir dansé dans des fêtes profanes, et nous, je sais qu'au bout de 5 minutes, on n'a quand même plus de souffle.
Ouais, ça fait mal au mollet.
Ouais. Et d'ailleurs, tous les gens que j'ai rencontrés qui ont vu ça, parlent de ce côté de dépense physique extrême, quoi. Et surtout de le caractère presque de prouesse physique quoi qui était lié à ça. Et donc voilà, il fallait faire la personne. Ça se passait à des moments très précis, au début de l'été, hein, c'est-à-dire mai-juin, l'été commence plus tôt là-bas. Et donc les symptômes de la prise de possession sont exactement les mêmes symptômes que ceux de la morsure, de l'intoxication par le venin. Parce qu'il faut quand même dire une chose qui est fondamentale, c'est qu'en réalité, même moi, si tous les gens, tous les anciens que j'en ai parlé croient, disent oui, c'est l'araignée, etc. L'araignée, en réalité, une figure symbolique. Quoi. Après, le symbole, il faut y croire pour qu'il puisse fonctionner, pour qu'il puisse être efficace. Puisque le symbole, c'est ce qui rend possible la communication. Quoi. Et donc, il fallait faire venir les musiciens, quoi, qui étaient généralement des paysans, des artisans, des gens qui venaient, qui délaissaient leurs occupations pour jouer.
Et c'était un moment où tout le monde, les musiciens, toute une partie de la population délaissait toutes les activités et aussi le travail.
Tout à fait.
Pendant plusieurs jours.
Ah oui, tout à fait. C'est vraiment quelque chose qui est anti, qui est anti-économique, quoi.
Et avec l'idée de que du coup, la personne qui mime être piquée par une araignée et qui, du coup, a besoin d'être délivrée de cette possession symbolique, comme une espèce de folie, et du coup, tout le monde arrête le travail pour être là avec cette personne.
Bah, disons déjà au moins la famille de la personne tarantolate, les proches qui l'assistent, les musiciens qui délaissent leurs activités, bon, qui sont défrayés, mais bon, c'est juste histoire de couvrir le manque à gagner. Hein. Et alors, toutes les descriptions du rituel, puisque ça a produit une abondante littérature, hein, toutes les descriptions du rituel, en gros, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, font apparaître des formes beaucoup plus complexes, beaucoup plus élaborées, beaucoup plus collectives. Quoi. Là, à la fin des années 50, début des années 60, quand Demartino et d'autres ont commencé un peu à mener des enquêtes ethnographiques là-dessus, le rituel était déjà dans sa phase terminale et il avait déjà pris une forme plus domestique. Tu vois, c'était passé. Mais, et déjà, les Tarantolettes étaient déjà isolés, quoi. Ouais. Passaient déjà un peu pour des dérangés, quoi. Même si pour beaucoup de gens, la figure de la Tarante continuait d'agir, mais le regard global avait évolué. Mais on voit auparavant des formes beaucoup plus collectives, c'est-à-dire plusieurs cas de personnes tarantolates au même moment, qui dansent ensemble, et puis beaucoup de gens qui dansent, qui les accompagnent dans cette danse, qui dansent avec. Et puis une forme, souvent en forme de déambulation, c'est-à-dire c'est pas domestique, quoi. Ça va se passer dans les rues, sur les places, sur les plages, dans les champs, etc. Ça vraiment, ça prend une allure assez carnavalesque si on considère qu'il y a également d'autres formes de surstimulation sensorielle que la musique. Il y a aussi les couleurs, très important, les couleurs, parce que chaque araignée qui pique est censée avoir sa couleur, il faut l'identifier. Donc beaucoup de couleurs très vives. Le travestissement aussi, souvent les tarantolates se déguisaient, il fallait aller emprunter des beaux vêtements chez le baron, la famille du baron et tout, chez les gens riches, etc. Enfin, il y a vraiment tout un ensemble qui définit quand même une forme d'expression véritablement dramatique, c'est-à-dire théâtrale, quoi, quand même. Théâtrale au sens original du mot théâtre. Alors, justement, j'ai beaucoup développé à partir de ça, puisque... Bon, vous savez sans doute que les premières formes de la tragédie du théâtre, c'était l'invocation à Dionysios, lors des rituels dionysiaques,
en Grèce,
de la Grèce archaïque, puis de la Grèce classique. Mm. Vous savez aussi que cette région, tout le sud de l'Italie, faisait partie du monde grec. En particulier la ville de Taranto, qui était un bastion des rituels dionysiaques, et Platon en fait état à plusieurs reprises. Et donc j'ai articulé ça après. Même si évidemment il y a à peu près millénaire de distance contre la disparition du rituel dionysiaque dans le sud de l'Italie et les premières mentions du rituel de la Tarente, il y a à peu près 1000 ans. Quoi. Alors, on pense que le rituel dionysiaque a disparu vers le 4e siècle, quand le christianisme s'implante dans cette région, dans le sud. Et les premières mentions, c'est vers 1350, les premières mentions du rituel de la Tarente.
Hein. Il y a 1000 ans, oui.
Donc on peut penser qu'il y a des éléments épars qui ont été réordonnés autour de la figure symbolique de la Tarante. Mais ça, on ne le saura jamais.
Mais du coup, aujourd'hui, est-ce que c'est des pratiques qui existent encore ?
Non.
Pas du tout ?
Non, moi, quand j'en ai entendu parler à la fin des années 80, c'était déjà considéré comme quelque chose du passé. Voilà, ma belle-mère me parlait de sa copine d'enfance, sa voisine qui était tarantolate. Elle m'a raconté de tout ça par le détail. Et des années après, elle était encore fort impressionnée quand elle en parlait. Mais il existait encore des cas. Hein. Moi, les derniers cas dont j'ai entendu parler, c'était dans les années 90. Mais donc, c'était des cas assez isolés. Et moi, je n'ai jamais cherché à aller voir. Parce que déjà, à cette époque-là, les dernières tarantolates étaient l'objet d'une certaine curiosité qui n'était pas toujours très saine. Et dans la mesure où elles étaient déjà assez stigmatisées, beaucoup de gens les présentaient comme en utilisant les catégories psychiatriques, quoi. Donc ça me paraissait pas convenable de faire du voyeurisme, quoi.
Parce que du coup c'était devenu plus un spectacle. Enfin, certaines personnes pouvaient le voir plus comme un spectacle que comme un rituel collectif.
Bah, disons qu'il y avait le fameux pèlerinage du 29 juin à Galatine, qui est encore autre chose que le rituel, qui correspond aussi à un moment où l'Église catholique a réussi à poser la figure des saints là-dessus. Donc, considérer que Saint Paul ou Saint Vite avait le pouvoir de guérir les morsures d'araignées, etc. Mais en réalité, bon, tout le monde savait bien que c'était les musiciens qui faisaient le travail. Mais donc, là, il y avait à Galatine, une petite ville du centre du Salento, il y avait une chapelle consacrée à Saint-Paul, où il y avait un puits qui était censé avoir une eau miraculeuse, etc. Bon. Et donc là, les tarantolas, elle est là le 29 juin pour la Saint-Paul. Mais là, comme évident, c'était un édifice religieux, il n'y avait pas les instruments de musique. Donc c'est une forme d'expression très chaotique et tout. Donc là, beaucoup de gens venaient assister, guetter l'arrivée des tarantolas. Moi, je n'ai jamais voulu y aller. J'ai jamais voulu y aller et ça existait, c'était très fort hein, encore. Moi, à l'époque où j'ai entendu parler, il y avait encore des tarantolates qui allaient là-bas, mais j'ai pas voulu faire du voyeurisme. Quoi. J'ai préféré recueillir les témoignages de ceux qui étaient proches. J'ai même connu quelqu'un qui l'avait été, tarantolate, puis c'était le père d'un gars, d'un joueur de tambourel assez connu, Pino Zimba, qui est mort d'ailleurs depuis. Et son père avait été tarantolate pendant longtemps.
Voilà, il y avait des hommes et des femmes, c'est la question que je me
posais. Oui, ben, disons que l'ensemble des témoignages fait apparaître... Alors après, c'est très difficile, puis quel intérêt de faire des statistiques. Hein. Mais dans les témoignages concernant notre région, par exemple dans le Cilento, qui est au sud, un massif montagneux au sud de Salerno, c'était plutôt des hommes les qui avaient été identifiés... Je pense que ça frappe indifféremment les jeunes et les vieux, les hommes et les femmes. Mais ce qui est sûr, c'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, quand a commencé l'émigration massive des hommes en Europe, voire en Australie ou aux États-Unis, surtout dans la région du Salento, qui est une région qui avait très peu connu l'émigration jusque-là, donc les hommes ont entré dans une autre dimension, quoi. Ils vivaient là-bas, en Allemagne, en Belgique, dans la France du Nord, etc. Et donc, les personnes qui restaient, c'était les femmes. Et puis, bon, en plus, de toute manière, ces rituels-là, évidemment, engageaient les gens qui étaient le plus infériorisés dans la société. Quoi. De la même manière que les rituels dionysiaques engager ceux qui étaient exclus de la fameuse démocratie aristocratique athénienne, quoi. C'est-à-dire les femmes qui n'avaient aucun pouvoir, aucun droit, les esclaves, les métèques, les adolescents. Quoi. Et là, c'est un peu pareil. Hein. Bon, de façon globale, ça concernait de toute façon la foule des paysans du Sud, qui étaient des gens extrêmement exploités et opprimés, quoi, et qui n'étaient l'objet d'absolument aucune reconnaissance sociale. Donc, mais a fortiori après-guerre, les personnes qui sont restées peut-être les plus dépositaires de tout ça, qui le transmettaient, c'était les femmes. Quoi.
Et du coup, dont les crises ont pu. Tu disais tout à l'heure que ça a été stigmatisé aussi, qu'elles étaient. Je ne sais pas si c'est le bon mot, stigmatisé, mais qu'elles.
Bah, disons que le regard de la société dominante a évolué. Au XVIIe, XVIIIe siècle, il y a une abondante littérature sur tout ça, dans toute l'Europe, dans tous les pays d'Europe, sur cette question, sur le rituel de la Talente, qui questionne, alors ça part un peu dans tous les sens, mais tu sens bien que c'est le moment où toute la pensée rationaliste occidentale est en train de naître, de se mettre en place, quoi. Et tu sens bien quand même que cette pensée rationaliste se sent un peu prise en défaut par cette fonction thérapeutique des sons. Et en plus, ils découvrent que les Grecs de l'époque classique, Platon, Aristote, tout ça en avait parlé. Et donc, il y a une littérature, il y a un vrai questionnement. À partir du 19e siècle, à partir des Lumières, vraiment, on va dire, à partir de 1750, ça change avec les Lumières de l'illuminisme napolitain, où là, il y a toute une série de penseurs matérialistes qui pour qui c'est juste des formes de superstition. Enfin, on est vraiment dans la posture typique de la pensée des Lumières, quoi. Qui est comme une pensée bourgeoise. Une pensée bourgeoise et qui méprise absolument toutes les formes de langage de la plèbe et des classes subalternes. Donc c'est une superstition, c'est même de l'imposture, etc. Il y a des mots très durs qui sont employés par certains intellectuels comme Serra ou tout ça. Et au XIXe siècle, ça évolue de plus en plus vers la psychiatrie. La psychiatrie, alors les qualificatifs, c'est l'hystérie, la mélancolie, les femmes apuliennes ou calabraises sont réputées pour être sujettes à des accès de mélancolie. Je ne sais pas, moi j'ai vécu avec une pendant 10 ans, j'ai marqué. Ma compagne d'ailleurs disait... disait toujours, moi, si j'étais resté, parce qu'elle avait émigré en France quand elle avait 8 ans, puis après, sa famille était retournée là-bas. Et elle disait, moi, si j'étais resté à vivre là, j'aurais été tarantolate. Et je pense qu'en plus, elle l'aurait été, oui, sûrement. Mais non, je n'ai jamais remarqué qu'elle était particulièrement mélancolique ni hystérique. Mais bon, voilà, tous ces, on est dans un registre totalement ethnocentrique, colonial. Colonial, dans la mesure où, de toute façon, le sud de l'Italie est une colonie. Ça a été colonisé par les Romains, ça a été colonisé par les Français, les Espagnols, qui sont restés 3 siècles quand même. Après la dernière invasion, c'est celle du royaume de Piémont-Sardaigne en 1860, quoi, dont le sud ne s'est jamais vraiment remis. Quoi. Et donc l'Italie a sa colonie intérieure dans le sud, quoi, l'Italie industrielle du nord. Enfin, on connaît tous l'histoire, hein, la main-d'œuvre du Sud qui émigre dans les usines de Milan et de Turin dans les années 60 et puis qui se révolte là-bas contre le régime de l'usine, contre le travail, parce qu'elle n'est évidemment pas du tout formatée à ça, quoi. Mais donc l'Italie a sa colonie intérieure et ça, ce fonctionnement social, il se traduit aussi par des schémas de pensée, par un regard, quoi, par un regard très colonial, très raciste. Et aujourd'hui encore, les Italiens du Sud sont l'objet d'une véritable discrimination raciste dans le Nord, à tel point qu'il y a un mouvement néo-fasciste qui s'est fait une spécialité de dénoncer les méridionaux, quoi, la Lega Lombarde, enfin la Lega Nord. Et moi, j'ai connu pas mal de gens, hein, dans le sud de l'Italie qui avaient émigré en Lombardie, etc., qui revenaient extrêmement meurtris de ce qui... Alors évidemment, là-bas, ils s'organisent comme les Africains, comme les Tunisiens. Ils se mettent en communauté, ils restent entre eux. Mais non, ils sont vraiment considérés comme des étrangers à l'intérieur même du pays.
Est-ce qu'on va écouter un morceau?
Ouais, pourquoi pas.
Alors tout à l'heure, on a écouté une Pizzica Salentina.
Ouais, c'est des...
Pizzica Palsanica, ça date de 1959.
Et on va écouter une autre variété de Pizzica, qui date aussi de 1959, avec les mêmes interprètes, qui est légèrement différente. Attends voir que je regarde. Ouais, voilà. Avec le célèbre Luigi Stefani, le barbier violoniste que De Martino avait interrogé en 59 et que j'ai connu. Moi. Je l'ai vu jouer dans les années 90 dans les fêtes de village.
D'accord.
Et son jeu au violon a influencé énormément de gens. J'ai plein de copains qui jouent de cette façon-là, mais encore maintenant.
Bon, on va écouter ça et puis restez avec nous sur Radio Klaxon avec Alessia Dell'Umbria.
Et si vous voulez poser des questions ou réagir ou si c'est pas assez fort et que vous entendez pas bien, n'hésitez pas à envoyer un texto au 07 53 38 06 70. Thank you.
c'était une tarantelle, non, une pizzica tarantata. Tarantata?
Si,
oui.
Si.
1959. Et on est encore sur Radio Klaxon avec Alessia Dell'Umbria. Du coup, on parlait de ton bouquin Tarantella. Et on racontait un peu c'est quoi cette piqûre symbolique de personnes qui se mettent à danser et tout ça. Et qu'aujourd'hui, ça existe pratiquement plus.
Oui, je pense que les derniers cas de personnes tarantolates, c'est les années, la dernière décennie du siècle passé, quoi. Je sais qu'il y a des cas très précis qui ont été signalés entre autres une personne qui a joué dans ces situations-là au milieu des années 90. Quoi. Mais là, on est vraiment dans les tout derniers cas.
Et on parlait aussi du profil des personnes qui se faisaient piquer symboliquement ou pas, ça dépend si on ne croit pas par cette araignée. Et on disait que c'était hyper différent selon la région, ça pouvait être des femmes, des hommes.
Juste une petite, désolée, on arrête l'émission une seconde pour faire une petite info. On signale deux véhicules de gens merderie qui contrôlent au bois Rignou à l'entrée des 281.
D'accord.
C'était l'infotraflic.
Contrôle au bois Rignou. Et du coup, c'était un profil assez différent. Mais quand même, tu disais, c'est des gens qui, antiquement, dans les temps anciens, ça correspond à les personnes que dans les temps anciens, ils n'avaient pas la place qu'ils souhaitaient dans la société. Du coup, c'est quoi le lien entre ta condition dans la société et le fait de se faire piquer et de...
Ben moi, j'inverse un peu la perspective des anthropologues comme Demartino qui ont étudié ça dans les années 50-60, pour qui c'est une preuve du sous-développement, de l'arriération du Sud, c'est une manifestation de souffrance et tout. Moi, je vois que tous les témoignages des siècles précédents font apparaître ça plutôt comme une manifestation de joie. Parce qu'on a l'impression d'être dans un rituel beaucoup plus complexe, beaucoup plus structuré, beaucoup plus élargi. Alors que Demartino, lui, quand il va là-bas en 59, il observe déjà une forme du rituel qui est déjà dans sa phase déclinante et qui n'est plus, qui commence déjà à ne plus être accepté socialement. Moi, je faisais un peu une analogie avec le peuple du blues. Bon, pendant moi, longtemps, la seule forme de musique vraiment populaire et paysanne qu'on connaissait, c'était le blues. Enfin, qu'on connaissait comme ça par importation. Hein. Et c'est vrai que, par exemple, les Noirs du sud des États-Unis, du fait de la ségrégation, de leur relégation à tous les niveaux, hein, leur relégation sociale, politique, culturelle, en même temps, avait conservé une autonomie culturelle très large, qui leur permettait une grande liberté d'expression. Et donc, qu'est-ce que ça a produit ? Ça a produit le jazz, ça a produit le blues, ça a produit le rock and roll, ça a produit la soul, la funky, le rap, excusez du peu. Et tout ça qui apparaît quand même, même si dans les Blancs aussi ont joué un rôle, mais quand même, ça vient quand même de gens, même les Blancs qui étaient dans ce truc-là, c'était même des white trash, quoi, des gens qui vivaient dans des conditions de relégation. Donc, c'est quelque part, ça nourrit une richesse d'expression que n'ont évidemment pas ceux qui sont complètement intégrés dans la société urbaine, métropolitaine, occidentale, et qui n'ont plus de langage, en fait, qui n'ont plus de langage dramatique dans lequel ils peuvent se raconter, se saisir, et construire un véritable rapport commun au monde, quoi. Ça, les Noirs du sud des États-Unis l'avaient. Et c'est la même chose, on peut le voir comme ça, pour les paysans du sud de l'Italie. Et donc, c'est un peu ça l'analogie. Donc, pour moi, en fait, c'est tout ce que. En fait, tout le bouquin, l'axe, le fil conducteur du bouquin, c'est de partir un peu, d'explorer toutes ces formes de langage que les gens se sont construits à l'intérieur même de cette condition de relégation et d'exploitation. Voilà, c'est une réflexion sur ça. C'est fondamentalement, c'est une réflexion sur le langage, en fait.
Parce que moi, j'avais lu le livre de Martino, il y a longtemps, et ça m'avait donné l'impression que ces moments-là où les personnes se font piquer et qu'elles dansent, c'était des moments où les personnes les plus fragiles dans cette société-là, elles demandaient de l'aide à la communauté et que toute la communauté se mettait, et ça m'avait bouleversée, de voir comment ça pouvait être le fait qu'une personne ne va pas bien, ça pouvait être pris en charge collectivement. Mais là, quand tu t'en parles, je me suis dit, mais en fait, c'est pas juste une personne qui va pas bien, mais cette personne, elle, dans toute la tradition, toute la cérémonie, il y a la souffrance ou les émotions de toute la communauté, en fait. C'est pas individualisé comme moi je l'avais interprété, c'est plus...
C'est la critique que j'adresse à Desmartino. C'est que lui, il adopte typiquement le point de vue de l'individu abstrait de la société bourgeoise, quoi, qui n'est pas précisément celui du monde paysan. Dans l'état l'entolate, et surtout si on considère que jusque pendant longtemps, c'était un phénomène très collectif, la transe de possession. Hein. On a des descriptions qui parlent de villages entiers qui sont mordus par l'araignée, quoi, qui sont possédés. Quoi. Avec des scènes dignes d'une peinture de Bruegel. Et où là, on voit vraiment apparaître la dimension carnavalesque. C'est pour ça qu'après, j'ai beaucoup, à la suite du rituel, je parle dans le bouquin aussi d'autres formes de régénération périodique du propre monde paysan qui se déroulent à d'autres moments de l'année, généralement à la sortie de l'hiver, qui sont les carnavals. Carnaval paysan et les rites de fertilité tels qu'ils existent encore dans certaines régions, pense particulièrement à la Basilicate, le nord de la Calabre, le Molise. Et oui, c'est clair que la tarantolate, les tarantolates sont des médiums, apparaissent comme des médiums parce que la communauté se voit en elle, se ressaisit. Sans parler que c'est la communauté n'est pas là simplement à regarder, elle participe. Participe d'abord à travers les musiciens, déjà, aussi à travers le fait que beaucoup de gens accompagnent Tarantola, parce que la Tarantolate, quand elle vous invite à danser avec elle, vous ne pouvez pas refuser. Et donc, voilà, les gens participaient à cette danse, et puis les gens participaient ne serait-ce que préparer à manger pour les musiciens. Les Tarantolates ne mangeaient pas, hein. Prenaient un petit bouillon, mangeaient une fois qu'elles avaient fini leur danse. Hein. Mais voilà, il y a tout ça, puis il y a le fait aussi de participer, par exemple, au défraiement des musiciens. S'il fallait bien qu'ils soient défrayés, pendant ce temps-là, ils ne travaillaient pas. Quoi. Bon, à l'époque, il n'y avait pas le statut d'intermittent des spectacles. Hein. Il n'y a d'ailleurs toujours pas en Italie. Mais, donc voilà, et donc ça fait. Il y a une division du travail quoi, qui est le propre précisément d'une communauté. Quoi.
Et ce que tu disais hier aussi, du coup, ce lien avec le carnaval, c'est que en Italie, ça s'appelle aussi le petit carnaval des femmes.
Oui, le carnavaletto delle donne. C'est magnifique comme expression. Oui, c'est.
Mais du coup, moi, dans ton bouquin aussi, tu fais ce lien avec le carnaval occitan. Et aussi, tout à l'heure, on parlait du carnaval de la plaine.
Bah, le lien, par contre, ça, je ne le fais pas dans le livre, je le fais dans la réalité pratique. Puisque, oui, bah, disons...
Je rappelle, le carnaval de la plaine, c'est à Marseille. C'est un quartier de Marseille.
Dans le centre-ville. Et... Bon, vous savez que la plus longue et la plus importante immigration à Marseille, c'était l'immigration italienne, quoi, qui a duré pratiquement 2 siècles. Il y a d'ailleurs là actuellement une nouvelle vague d'immigration italienne, bien que assez différente des vagues précédentes. Et déjà, c'est un premier point. Énormément de Napolitains d'ailleurs. Et moi, j'ai commencé à faire venir des amis du sud de l'Italie qui jouaient cette musique là, dès 98 à Marseille. Et coïncidence, le carnaval de la plaine, on l'a créé en 99. Et donc très vite, comme on était quelques-uns, puis moi j'avais amené des tambourelles, il était mort et tout ça, j'avais un peu montré, j'ai fait venir des copains là-bas dans des fêtes du sud, quoi, qui avaient été enthousiasmés. Donc on avait commencé un peu à jouer, tu vois. Puis, quand des musiciens du sud de l'Italie venaient, on jouait un peu avec eux, enfin, on s'entraînait. Donc, si tu es dans le carnaval, on utilisait ces rythmes-là un peu. Principalement un rythme de pizzica ralenti qui allait bien pour la déambulation. Hein. Et puis aussi après, bon. Puis la tarentelle, on joue aussi la farandole après, lors du bûcher final. Et la farandole, comme pas mal de musiciens occitans nous l'ont fait remarquer, c'est une, quelque part, c'est une tarentelle qui est légèrement décalée, quoi, en fait. Si on regarde bien les mesures et tout. Et donc voilà, on peut passer de l'un à l'autre.
Hein, et ça, c'est une espèce de transe collective. Là.
Ouais. Tu as participé, toi?
On tourne autour du feu en bondissant pendant des heures.
C'est génial. Et de là, ouais, effectivement, on a les instruments, on a les tamors. Maintenant, depuis pas mal d'années, on a des copains napolitains, calabrais qui vivent à Marseille, donc ils viennent avec l'organette, tout ça. Mais plusieurs fois, on a des musiciens du sud de l'Italie qui se trouvaient à Marseille à ce moment-là, qui ont participé, quoi. On a nos amis de Assur, qui est un groupe de quatre femmes de Naples, qui ont participé en 2004. Nos amis d'Alessandria del Careto, dans Calabre, qui sont venus avec les masques de leur village, qui sont des masques extraordinaires, les masques de leur carnaval, qui jouaient la zampogne, tout ça. Les tarentelles. Tiens, d'ailleurs, on va s'écouter un truc, puisque je cite les gens d'Alessandria del Careto, on va s'écouter quelque chose, si vous voulez bien, de chez eux, pour leur rendre un petit hommage. Tiens, celle-là, là.
Pastorale di San Paolo. On écoute ça et on revient avec Alessi de Lubrin à Radio Klaxon.
Thank you.
Radio Klaxon. On y est. On s'était pas. Vous êtes toujours sur Radio Klaxon. Voilà, on s'était perdu à discuter et on n'a pas vu que la chanson était finie. Et on est toujours avec Alessi de Lumbre. Du coup, on a continué à écouter la musique. Et.
On était sur, avant d'aller sur le carnaval de la plaine, on était sur le langage commun. Et tout ce que tu décrivais, moi, ça me faisait penser un peu à une espèce de fondement de la culture commune, en fait. Une espèce de comment on se construit une culture, comment on communique, comment on vit. Je sais pas,
ah oui, de toute façon, c'est ça l'objet principal du bouquin, au fond. C'est ça. Et comment on est... À travers les siècles, les gens de cette région du monde se sont construits ce langage et comment, dans les dernières décennies aussi, il a été, ce langage a été agressé par la société du spectacle, quoi, hein, puisque c'est vraiment les années 70 où là, ça a vraiment pris une méchante claque, quoi. Où beaucoup de musiciens commençaient à remiser au grenier leurs instruments de musique traditionnelle à côté des outils agricoles tombés en désuétude. Et où en même temps, il y a eu en réaction une vague de tout un courant dans la jeunesse, jugé souvent politisé. De retour, de réappropriation, de valorisation de ces formes de langage. Alors, avec beaucoup de maladresse, avec beaucoup de malentendus, mais en tout cas, il y a quelque chose qui a commencé à se faire à partir des années 70. Et puis, l'autre phase qui a commencé dans la fin des années 90, qui est celle de la récupération spectaculaire à nouveau de ce truc-là, à travers... les méga-festivals destinés principalement à une clientèle de touristes, et destinés même à faire des gens du Sud des touristes par rapport à leur propre culture, quoi. Et donc voilà, à la fin du bouquin, j'examine tout ça, quoi. Toutes les questions, aussi la question du champ politique, la question de la différence entre un champ qui est politique de fait, de par le rapport au monde qu'il induit, ou la différence avec les champs, on va dire, plus militants. Tu vois, même si la frontière entre les deux n'est jamais aussi forte, aussi tranchée qu'on le croit. Donc voilà, ça c'est un peu quelque chose que j'examine à la fin du bouquin, quoi.
Et là, t'as dit tout à l'heure, moi je connais pas grand-chose en musique, mais du coup, t'as dû t'y mettre pour... parce que quand même, tu dis, t'arrives à dire, avec les différentes tarentelles et différentes musiques en Italie, t'arrives quand même à te repérer, à savoir les tons et...
Ah oui, quand même, non, ça quand même, un minimum. Mais oui, mais tout ça, je l'ai appris sur le terrain, quoi. Parce que ce qui était extraordinaire, c'est que moi, avant, je n'avais eu de rapport à la musique que très lointain, puisque nous, bon... Ma génération, on écoutait du rock'n'roll, on écoutait du rock'n'roll, on allait forcément vers le blues, obligé. Mais tout ça, c'était des musiques qui venaient d'ailleurs, quoi. Et là, ce qui était intéressant, c'est de découvrir un langage d'une telle intensité pratiquement aux portes de chez nous, quoi. Hein, et donc là, oui, effectivement, il y avait une proximité. J'étais là dans les fêtes, la musique était là directement, sans amplification, les musiciens étaient à côté de moi. Parce que toute cette musique se déploie toujours sur le même plan horizontal, hein, comme je disais hier, ça c'est quelque chose qui est très important. Ce dont je parle dans le livre, moi je ne parle pas par exemple de tous les groupes de musique néo-trad qui existent actuellement, il y en a des bons, hein, il y en a des très bons, il y en a aussi des très mauvais. Et ça, moi, c'est pas le propos, j'en évoque quelques heures, mais le propos, c'est pas ça. Pour moi, ça c'est autre chose. Ça, c'est effectivement une traduction sur les plans de la culture occidentale. Mais ce qui est important, c'est d'abord la forme. La forme que prend ce langage, par exemple, ce qui est important, c'est la ronde. La ronde, cet espace circulaire. Qui se déplace, qui se meut, hein, dans les rondes auxquelles il m'est arrivé de jouer. Des fois, la ronde commence, elle est assez étroite. Des fois, elle s'élargit démesurément, au point que d'un côté à l'autre de la ronde, on ne se trouve plus sur le même tempo. Des fois, elle se dilate, elle se rétrécit. Enfin, c'est quelque chose qui est vivant, quoi. Et ceux qui sont sur le bord de la ronde ne sont pas des spectateurs. C'est-à-dire, quelqu'un qui est là, immobile, qui se contente de regarder, l'instant d'après, peut-être sera au milieu en train de danser, ou va s'emparer d'un instrument de musique et va se mettre à jouer, ou va entonner quelques couplets. Enfin, n'importe qui a un minimum de savoir-faire peut, à un moment donné, devenir lui-même acteur de ce que Jean Rouch appelait ce fantastique opéra, lorsqu'il parlait du rituel et à propos des maîtres fous, prenant un rituel de transposition qu'il avait filmé au Ghana. Alors, ça m'avait interrogé, cette formule de Jean Rouch, parce que les gens qui ont créé l'opéra, à la fin du XVIe siècle, la Camerata Bardi, qui était un groupe d'esthètes, de riches esthètes de Florence, voulait revenir aux formes initiales du drame qui impliquait la musique. Les premières formes de théâtre dans la Grèce classique, il y avait énormément de musique dedans. Et d'ailleurs, les gens comme Sophocle ou Euripide étaient connus pour être aussi des musiciens. Et donc, et c'est comme ça qu'ils ont créé l'opéra. Il y a eu Monteverdi, tout ça, bon. Mais ce qui était amusant, c'est qu'ils étaient loin de se douter que, quelques centaines de kilomètres plus au sud, les formes encore plus anciennes du théâtre étaient toujours vivantes dans la plèbe des paysans. Parce qu'avant même le théâtre classique, la tragédie naît à partir du rituel dionysiaque. La première forme d'expression dramatique. Enfin, ça, évidemment, c'est Nietzsche qui l'a développé, ça, la naissance de la tragédie, dans son fameux bouquin que j'avais lu au milieu des années 90 et qui m'a évidemment porté à revoir d'une manière très différente que l'optique des Martiniennes tous ces rituels du sud de l'Italie. La première forme de... Le bouquin de Nietzsche, c'est la naissance de la tragédie. Et c'est son premier bouquin, c'est une œuvre de jeunesse. Mais où, si tu veux, dans ce bouquin, lui, il oppose les valeurs, la musique dionysiaque, qui est la musique de la transe, à la musique apollinienne, qui est la musique, on va dire, de l'extase, qui est une musique plus cérébrale, qui est celle qui a dominé en Europe, quoi, avec toute la musique harmonique, tonale, tout ça, par la suite, quoi. Et qui avait les faveurs des philosophes, tu vois. On voit bien, Platon, Aristote considèrent le mode dorien, en l'occurrence, comme celui des gens de qualité, alors que les modes, comme le mode phrygien, ça, qui sont les modes de la musique dionysiaque, c'est pour les gens grossiers, et tout, des classes inférieures, etc. Mais en admettant, en reconnaissant quand même, contraint forcé, le caractère thérapeutique de ces modes-là. Et donc, le rituel dionysiaque impliquait toute une phase de récitation, d'invocation à la divinité, et qui part après en déambulation avec les instruments à percussion, comme dans la tarentelle, comme dans la pizzica, etc., et qui part en déambulation sauvage et tout. Et tragédie, c'est une tragos odos. Odos, c'est... Un chant c'est le bouc, parce qu'on sacrifie un bouc rituellement dans le rituel dionysiaque, et à partir de là, à partir de ce sacrifice, et donc si tu veux, la tragédie classique, celle de Sophocle, de Eschyle, fait que au sacrifice effectif d'un animal est remplacé par le sacrifice symbolique du héros tragique, quoi, hein, qui lutte contre une destinée, etc. Et donc, il y a un glissement, si tu veux, c'est-à-dire d'une action qui n'a pas d'autre but que de célébrer une transe collective, on passe à quelque chose qui raconte, qui est purement narratif, qui raconte une destinée individuelle, quoi. C'est là que ça se passe, la différence. Et ça, évidemment, les esthètes de la Camerata Bardi, ils ne pouvaient pas le savoir, quoi, à l'époque. Mais donc, ce qui, si tu veux, c'est presque par un malentendu historique qu'ils ont créé l'opéra, quoi. Et donc, mais à partir de ça, je me suis intéressé parce que la Grande Grèce a été le lieu d'un grand débat, tu vois, à l'époque. De Taranto jusqu'à Reggio Calabre, il y a tout un débat sur le rôle de la musique. Parce que c'est une région, d'abord, les rituels dionysiaques étaient très forts. Et puis, il y a toute une discussion dans des sectes philosophiques, les orphiques, les pythagoriciens, qui ont beaucoup influencé Platon, etc. Et donc, il y a toute une discussion, même un musicien comme Aristoxenos de Taranto, qui a écrit plusieurs livres et qui a été... maire de Taranto, enfin, si, je ne sais pas comment on appelait ça, c'était stratège à l'époque qu'on appelait ça, a écrit des livres où il parle de ça. Tu vois, et lui-même était réputé pour être musicien, qui jouait pour guérir des gens qui n'étaient pas bien, etc. Et donc on a toute une confrontation, si tu veux, entre l'approche quand les classes dominantes... auxquels appartiennent les philosophes, quoi, qui se font des questionnements sur la musique, etc. Et puis bon, la musique de trance des gens de basse condition. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce débat, qui est plein d'ambiguïté, plein de malentendus, mais ce débat a lieu, il est repris après, à partir, on va dire, du XIVe siècle, quoi. Et il est définitivement clôturé à la fin du XIXe siècle à travers soit l'approche psychiatrique, soit l'approche sociologique de tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, il y a une rupture qui s'opère. Tu vois. Cette rupture, elle s'opère une première fois dans le monde grec classique. Tu vois. Et elle s'opère une seconde fois, on va dire... je dirais au XVIIIe siècle, en gros.
Ouais, ça fait penser à comme à... Ça rappelle la tristesse comme de l'histoire qui ne se transmet pas. Et comme tu disais tout à l'heure, les Italiens du Sud qui sont comme touristes de leur propre culture oubliée. Mmh. Et c'est un truc qu'on retrouve dans... Bon, j'ai parlé de l'Europe, déjà dans toute l'Europe. Enfin, je sais pas, il y a plein de liens qui se font avec plein de pans de culture.
Ceci dit, attention, y a pas mal d'endroits encore, tout ce dont j'ai parlé hier, ce que j'ai fait écouter hier, c'est des choses qui existent encore. Le rituel de la Talente, lui, s'est éteint il y a, on va dire, définitivement une vingtaine d'années, mais par contre, tout un tas d'autres formes d'expression du monde paysan existent. Alors évidemment, elles existent de façon marginale, voire marginalisée, mais elles existent. Elles existent et les gens qui continuent de les assumer ne lâchent rien. Je veux dire, pour eux, c'est une question même de vie et de mort, quoi. Ça, partout où j'ai été, je l'ai vu, les gens qui viennent là, que ce soit les gens qui font la danse à Scherma dans le Salento, les gens qui vont au fait en Calabre, en Basilicate, au fait de fertilité, les gens qui assument les carnavals, les gens qui font toutes les fêtes des Madones dans la région de Naples, etc., ils font les tamburiates, tout ça. Pour eux, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est pas un simple divertissement, quoi. C'est vraiment tout un ensemble de codes de langage qui se mettent en jeu, qui se mettent en branle à des occasions fixes. Y a un calendrier très précis, et selon des modalités bien définies, et c'est quelque chose d'extrêmement important pour ces gens-là. Quoi.
Ça continue de les tenir ensemble quand même. Quoi.
Ah oui, complètement.
On s'écoutera encore un petit peu de musique.
Alors, qu'est-ce qu'on pourrait écouter? Tiens, c'est pourquoi on ne s'écouterait pas la tarantella di San Nicandro, tiens. Là-haut, on ne l'a pas écouté hier. Ça, c'est une tarantelle du Gargano, qui est en province de Foggia, qui est une zone montagneuse qui donne sur la mer, où ils ont un style un peu particulier aussi.
Allez, c'est parti.
It's macca d'ora quarta bit. Dice wey e l'inzio macca dura quarta bit. Macca dura raga ma tu si dobbiamo suonare. Macca dura raga ma tu si dobbiamo suonare. E fide come a palle l'uricchia vai tu. E fide come a palle l'uricchia vai tu. Che voce da vela e alta che la vita vuotai. E voce da vela e alta che la vita vuotai. Allora io mi metto giù.
Alors, on est de retour sur Radio Klaxon, jamais parti. C'était la Tarantella di San Nicandro.
San Nicandro, c'est un petit village en province de Foggia, en Apulie. Ah.
T'as envie de partir en Italie, tout ça. Et du coup, on arrive un peu à la fin de cette émission. Et moi, j'avais envie de faire parler Alessi sur un petit bouquin que moi j'ai lu il y a longtemps, qui est super, qui s'appelle « La rage et la révolte ». Qui a été écrit juste après les émeutes de banlieue de 2005.
Mmh. Ben, la rage et la révolte, en fait, c'est, le titre initial, c'était c'est la racaille et bien j'en suis, qui reprend un peu le titre d'une chanson des communards, quoi. C'est la canaille et bien j'en suis. Et ça a été réédité à l'époque par l'Échappée. Mais l'année d'après, Gone, chez qui j'avais publié notre bouquin, souhaitait le rééditer. L'Échappée n'avait pas trop les moyens de faire une réédition. Et donc, donc ça m'a donné l'occasion de faire une postface, tu vois, d'actualiser un peu, et même de revenir sur certains points que j'avais abordés. Mais ils détestaient le titre initial, ils ont insisté à tout prix pour changer le titre. Ils m'ont dit le titre que tu veux, moi, je ne suis pas très bon pour l'été. J'aurais dit, mais j'ai eu tort d'ailleurs, j'aurais dû. Tenir bon, j'aurais dit, écoutez, vous mettez le titre que vous voulez. À la rage, je trouve ça assez plat comme titre.
Ouais. C'est de la racaille, et bien gentil.
Ah, là, ça frappe plus, ça indique une prise de parti. Bah, disons, tu sais, moi, quand j'écris, bien souvent, au fond, je fais que quelque part que raconter ma vie à l'envers. C'est-à-dire, le sujet, c'est pas moi, mais ce qui me constitue. Les expériences qui me constituent. Tout ce qui me lie aux mondes que, dans lesquels je me lie à d'autres et qui me font exister. Quoi. C'est vrai pour le sud de l'Italie, c'est vrai par exemple pour la révolte des banlieues, puisque bon, moi j'avais participé en 1980 à la première grosse émeute qu'il y avait eu après un crime policier raciste. Quoi. Parce qu'en octobre 80, dans les quartiers nord, un CRS avait buté dans des conditions particulièrement scandaleuses, un jeune arabe de la cité des Flamands. Et donc, ça c'était le samedi soir, et le lundi, on est tous descendus en ville, tous les gens des quartiers nord, de la Belle de Mai, de toutes ces cités, même des quartiers plus centraux, parce que vous savez qu'à Marseille, le centre même est prolétaire. Et on avait fait une marche en hommage à la victime jusqu'à la préfecture. Et évidemment, on était tous venus lourdement équipés. Et après, on a attaqué les flics à la fin de la marche. Il y a eu plusieurs heures d'affrontement avec les flics en ville. On a saccagé toutes les rues commerçantes du centre-ville. Enfin, histoire de quand même de faire passer le message, quoi. Et voilà, après, moi, j'étais en Angleterre pendant l'été 80, qu'il y avait eu les émeutes. On avait été avec ma compagne, avec un ami qui sortait de Toll. On avait été à Liverpool, où il y avait des marches anti-police qui étaient annoncées en août, et effectivement, on n'avait pas été déçus du voyage. Au retour, on voyait que ça bougeait dans la banlieue lyonnaise, donc on était allé avec les copains rencontrer les rats, comme ils s'appelaient eux-mêmes, de la banlieue lyonnaise, c'était surtout des Algériens et des Italiens. Puis après, voilà, on était montés du coup à Paris, enfin, on avait vraiment une espèce de rencontre comme ça, tout à fait informelle et hors tout cadre organisationnel, quoi. Mais à l'époque, c'était beaucoup plus facile aussi de circuler, tu vois. Il y avait moins de ségrégation urbaine, ethnique, tout ça. Bon, enfin bref, on a vécu tout ça. Des amitiés très fortes y sont nées, etc. Puis le temps a passé. Et voilà, bon. Après, il y a eu la marche de 83, puis toute la récupération avec SOS Racisme, et puis pendant pas mal d'années, plus rien, quoi. La chape de plomb social-démocrate, droit de l'hommiste, citoyenniste sur le révolte des banlieues, puis ça réapparaît en 90 à Vaux-en-Velin, après la mort d'un jeune d'origine espagnole, Thomas Claudio. Et à partir de là, depuis, chaque assassinat, enfin souvent, la plupart des crimes policiers ont provoqué des révoltes, quoi. Et 2005, évidemment, a eu une ampleur sans précédent par la propagation dans pas mal d'endroits de l'Hexagone. Et moi, d'abord, j'étais un peu, évidemment, déstabilisé par le caractère complètement, la fureur qui se dégageait de cette révolte. Beaucoup plus... Ça paraissait beaucoup plus... Comment dire, ouais, plus furieux que ce que j'avais connu en 80-81. Ça partait tous azimuts, et puis c'était beaucoup plus... C'était très mal perçu, quoi. Y compris, moi je vois à Marseille, j'étais confronté à des gens de mon âge, de ma génération, des copains arabes, des quartiers nord, des gens qui avaient caillassé les flics quand ils étaient ados, quoi. Qui avaient une réaction très négative. Tu me dis, ouais, c'est quoi ces conneries, brûler les voitures des voisins, et tout, etc. Ce qu'on peut aussi... je veux dire, c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte. Donc voilà, je me dis, non, on peut pas... Cette révolte, elle mérite mieux que ça. Elle mérite mieux que la condamnation unanime dont elle est l'objet, y compris de la part de beaucoup de groupes radicaux, tu vois, ou pseudo-radicaux, qui ont vu que une manifestation de barbarie, des racailleux, etc. Je dis, non, il y a quand même... Quand après un crime policier... Il y a une telle révolte, on n'a pas le droit de ne pas se solidariser avec. Même si c'est de façon, dans mon cas, forcément avec de la distance, puisque je n'y ai pas participé. J'étais évidemment beaucoup plus âgé, j'avais 25 ans de plus qu'en 80-81. Et puis bon, personnellement, je suis un blanc aussi, Je sais ce que c'est la discrimination raciale. On avait des copains arabes ou kabyles, tu vois, quand on marchait en bande, quand on était jeune, on savait très bien qu'on se faisait embarquer par les flics, on se faisait tous dérouler, mais eux, ils avaient droit à un traitement spécial, quoi, ça, on le savait très bien, on en discutait d'ailleurs entre nous, on savait. Et bon, voilà, tous ces trucs-là, bon, ça m'a amené à écrire rapidement, en 2 mois, ce petit pamphlet.
Ouais, dans l'urgence.
Ouais, dans l'urgence. En fait, c'est destiné à répondre à des Espagnols au départ. Des camarades espagnols qui avaient fait un texte pour saluer cette révolte. Je pense qu'ils étaient très indignés par certaines prises de position vraiment lamentables. Et ils m'avaient envoyé ce texte en me demandant mon avis. Mais bon, eux, en Espagne, ils ont une autre histoire, tu vois. Donc j'avais pas envie de pinailler, de dire « Voilà, vous avez dit ceci, mais en fait c'est comme ça. » Je lui ai dit « Non, plutôt, je vais leur envoyer une analyse que je leur propose. » Voilà, des éléments d'analyse, plutôt. Hein, on va dire ça comme ça. Et eux, ils ont dit, nous, ça nous intéresse, on va le traduire en espagnol, on va le publier. Au même moment, un copain m'a dit, bah, tiens, les potes de l'échappée seraient intéressés. Bah, ouais, pourquoi pas, allons-y, j'ai un petit peu retravaillé. Et voilà, on a abouti à un texte qui, évidemment, est un peu chaotique, et, enfin, qui aborde différents thèmes avec des niveaux de langage très, très différents, mais qui est fait un peu dans l'urgence. Et... Bon, je pensais que ça allait être un texte parmi d'autres. Et malheureusement, avec le recul, on est obligé de constater qu'il n'y en a pas eu tant que ça. Quoi.
Non, t'es un peu le seul à porter cette voix-là. Quoi.
C'est assez navrant, mais c'est comme ça. Ouais. Il y a eu des petits textes qui ont été faits par-ci, par-là. Hein. Certains qui voient le truc d'assez loin, là, avec une espèce de fantasme... Je voulais aussi remettre les pendules un peu à l'heure, quand même. Il y avait tout un discours après, genre, ouais, il faut qu'on soit à la hauteur de la révolte des banlieues, ils nous interpellent, etc. La question n'est pas là, quand. La question n'est pas là. Et donc, voilà, j'avais... Et le bouquin a eu un certain succès, puisqu'il a été traduit d'abord en espagnol, il est paru presque simultanément en Espagne, il a été traduit après en... Là, il y a une traduction allemande qui est en train de se faire. Il a été traduit en anglais, en italien, en grec. Il n'y a qu'un chinois qui n'a pas encore été traduit. Mais voilà, je ne m'attendais pas à ce qu'il ait un tel succès. Alors évidemment, souvent je rencontre des gens, ils disent « Ah, c'est extraordinaire, ce texte, j'en vois que les faiblesses, la vérité. » Bon, comme disait récemment un copain, il a ses faiblesses, mais il a eu le mérite évidemment, c'est un autre type de bouquin, si tu veux, c'est un pamphlet. Le but d'un pamphlet, c'est, à un moment donné, dans l'urgence de la situation, de piquer, d'appuyer là où ça fait mal, quoi. Et d'essayer d'indiquer peut-être un peu quelques perspectives. Mais voilà, quelque part aussi, en écrivant ce bouquin, oui, je parlais aussi un peu de... Je revenais un peu sur des choses que j'ai vécues, quoi, quelque part. Même si ces choses-là, je les avais vécues bien avant, quoi. Mais c'était aussi un vécu contemporain, c'est-à-dire ma propre réaction de stupéfaction initiale face à cette révolte. Voilà, puis bon, après tout un tas de choses. Mais c'est assez curieux parce que j'ai été souvent invité en Espagne, en Italie, en Grèce, en Belgique, à parler de tout ça. En France, c'est le seul pays où j'ai jamais été invité nulle part. Les seuls qui m'ont invité, c'est des squatters de Lille. Et encore l'ont-ils fait parce qu'ils étaient incités par des gens de Bruxelles qui m'avaient invité. C'est assez étonnant, ce truc-là. On a l'impression qu'il n'y avait pas d'envie de débattre sur ça. Alors je veux bien, on peut après sur ce bouquin faire tout un tas de critiques, et certaines sont bienvenues, il y en a même une ou deux que j'ai intégrées dans la postface. Hein. Mais ce qui est assez étonnant, c'est le fait que les gens ont l'air de considérer, je sais pas, peut-être implicitement, les gens considèrent en France comme acquis, comme évident, ce qui est en fait loin de l'être. Très loin de l'être, comme on l'a vu d'ailleurs lors du mouvement du printemps 2006, quoi.
Tu peux préciser un peu le
fait. Lorsque, par exemple, il y a eu des agressions de la part de bandes venues de la lointaine banlieue, de bandes principalement de Noirs et d'Arabes contre des jeunes blancs de la classe moyenne. Enfin, ouais. Bon, un truc qui a été dépassé cette année dans le mouvement contre la loi El Khomri, hein, quand même. Moi, j'étais le 14 juin à Paris, là, dans le cortège de tête, et lorsqu'on a commencé tout ça... à se masquer et tout avant que le cortège s'ébranle. J'ai vu tous les jeunes autour, des gens très jeunes, hein, des fois, des gens qui avaient 15-16 ans. Et c'était chouette à voir parce qu'il y avait des blancs, mais il y avait aussi il y avait des arabes, il y avait des noirs. Enfin, tout le monde était là. À un moment, on mettait ses foulards, ses masques à gaz, son kawaï noir rituel, etc. Donc on voit quand même quelque chose, qui a des lignes qui ont bougé depuis 2005-2006. Mais c'est vrai qu'en 2005, cette révolte est vraiment tombée dans l'isolement, le plus total, quoi.
Ouais, puis le mot racaille, quand tu dis c'est de la racaille, ok, bah, j'en suis. C'est un mot hyper fort. Et du coup, le mot racaille, le mot casseur, et du coup, comment... Il y a un truc aussi de... Ouais, ça m'égare, ça me rappelle aussi Notav, son mot outil Black Block, avec le... Et reprendre ce truc-là, le mot qui vient d'en haut, à de la racaille, et puis quand tout le monde l'emploie et quand tout le monde se retourne... Enfin, 2005, c'est vrai que c'était hyper hardcore, comment tout le monde s'est désolidarisé de cette lutte, en disant, mais de toute façon, c'est des racailles. Et ça, j'ai trouvé sa forme, de dire, ouais, mais...
Okay, non, c'était terrible, ça. C'était terrible, parce que... En plus, au fond, on n'est pas là sur place, on ne sait pas qui il y a là, dans telle ou telle cité de banlieue. Et la question, d'ailleurs, n'est même pas là, au fond. Mais de toute manière, ça me fait penser à ce vieux mot d'ordre situationniste des années 60, faire passer l'agressivité des blousons noirs sur le plan des idées. Et c'est vrai que la violence extrême de certaines bandes... elle est de toute façon, elle exprime quelque chose, quoi. Elle exprime quelque chose de fort, et ce quelque chose, on ne peut pas se contenter de le rejeter en haussant les épaules. Et c'était pourtant ce que je voyais autour de moi, tu vois, pendant cette révolte, quoi. Donc voilà, si j'ai pu les contribuer un peu à faire bouger les lignes à ce niveau-là. Ben, ça aurait servi à quelque chose, au moins. J'en sais rien. Hein.
Non, mais ouais, si.
Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui est sûr, c'est que on a fait quelque chose quand il y a eu l'affaire de Villiers-le-Bel. Ça, oui, on a... À Marseille, on a reçu le comité, on va dire, des grands frères, qui est le comité de soutien aux inculpés, quoi. Quelques temps avant le procès, on a organisé des rencontres dans des cités des quartiers nord, dans des clubs de supporters, tout ça. On a fait quelque chose qui était très intéressant, tu vois. Oui, on a fait ça. Si on a réussi à le faire... Bon, moi, je sais que j'en garde un bon souvenir. J'ai plus eu l'occasion de les revoir, les gens de Villiers-le-Bel. tout ce qu'on a fait, ça n'a pas servi à grand-chose. Et les types ont pris des peines hallucinantes. Bon, il y en a un d'ailleurs, un des frères Camara, qui vient d'être libéré récemment. Là. Mais bon, voilà, ça un peu. Il y a eu quand même aussi quelques incidences concrètes quoi, à la suite de ce texte-là. Puisque bon, moi, on m'a contacté en tant qu'auteur de ce texte. On dit bon, mais voilà, tiens, peut-être que ça t'intéressera de faire quelque chose pour les gens de Vieille-le-Bel. Bah oui, évidemment.
Et les réseaux mis en place à l'époque, ils tiennent encore un peu aujourd'hui avec parce que il y a toujours des crimes policiers. En ce moment, ça sort un petit peu plus, on va dire, ça décloisonne parce que comme justement avec la récupération, on va dire je sais pas les bons mots, mais assimilation quoi, enfin de l'identité de casseur et sa généralisation, tout ça. Il y a du coup, certains disent que c'est la cause et la conséquence, je sais pas quoi, qu'il y ait la violence des flics qui aille justement un peu plus vers les classes moyennes, dans les centres-villes, vers les blancs, qui étaient que la violence policière s'étend, on va dire, et que du coup les gens se réveillent un peu là-dessus parce qu'ils se rendent compte de la violence policière qui daignait avant pour les banlieues ou pour les noirs à l'arabe des centres-villes, enfin, et que du coup à cause ou enfin tu vois ce que je veux dire.
Oui, je vois. Non, mais c'est vrai, moi, quand j'ai gagné la manif du 14 juin à Paris, le slogan du cortège de tête, c'était Zied, Bouna, Rémi, on n'oublie pas. Donc voilà, ça indique quelque chose, quoi. Ça indique qu'il y a des choses sont en train de se faire. Et puis bon, on connaît la fameuse formule de Sarkozy qui dit s'il y avait une alliance entre la jeunesse des banlieues et puis les étudiants, etc., ce serait vraiment une catastrophe. Évidemment, on y travaille. On travaille à ce que cette alliance se fasse. Quoi. Chacun avec nos petits moyens, chacun à notre échelle, on y travaille. Et c'est vrai que des choses se passent. Moi, je vois là, par exemple, l'assassinat de Adama Traoré, l'emprisonnement de ses frères, etc. Bon, on voit là, il y a quelque chose de très fort là-bas à Beaumont-sur-Oise qui s'est mis en place. On sent que là, on n'est plus du tout dans des gens qui se feront absolument pas manipuler par des citoyennistes, par des gens comme ça. Il y a eu des références à Rémi Fraisse. Là, récemment, il y a les parents d'un jeune de Paris là, qui était emprisonné pour l'accusé d'avoir participé à l'incendie d'une voiture de flic au printemps dernier, qui sont venus parler aussi de ces trucs-là. Enfin voilà, il y a des choses qui se passent. Quoi. On a vu, bon, Nuit debout, ça va aller ce que ça va aller, mais bon, on a vu des gens comme Alben Toussi qui sont venus parler, on a vu des gens comme Samir Eliès, l'ancien du MIB, qui est quand même quelqu'un qui a vraiment, dans sa cité, dans Marie-Élise, ils ont eu deux de leurs collègues assassinés par les flics, ils ont mené des luttes très dures. Bon là, lui, il est venu parler, il a fait le lien explicitement entre la jeunesse qui est dans les manifs, les lycéens de Paris, les jeunesses des banlieues. Il y a des choses, on sent que par rapport à 2005, ça se débloque. Quoi. Il était temps.
Bon, on termine du coup avec une dernière musique.
Allez, attends,
alors on est piqué par une tarentule.
Un truc qui tue, mais alors... Ah bah tiens, pourquoi on n'en écouterait pas un chant de prison?
Ah, oui. Pas mal.
Question. C'est tout en bas.
Le carcel.
Je l'annonce un peu.
Vas-y,
je
t'en prie.
Alors, on va, pour finir, on va écouter un chant de... Pourquoi tu te marres?
Vas-y.
Non, mais vas-y. Non, je sais pas, il y a le collègue là qui se marre. Là. Je sais pourquoi tu te marres.
Je t'imaginais un disjockey, à vrai dire.
Mais j'ai fait le DJ des fois. Ça m'est arrivé. Que du bon, d'ailleurs. Et je pourrais même venir des fois sur la ZAD avec mes vinyles,
oui,
animer des soirées.
Plaisir, tu me fais des playlists avec les commentaires de chaque morceau, ce serait génial.
Et là, alors, c'est un chant de prison qui est interprété par une chanteuse du Salento qui habite Lecce, donc, qui s'appelle Aniceta Petracchi, que j'ai un peu connue, puisque c'est la voisine d'une amie à moi. C'est une paysanne qui est maintenant assez âgée, elle doit avoir 15 ans, mais là, quand elle est enregistrée plus jeune... Et c'était sa spécialité, elle, pendant les travaux agricoles, c'était de chanter pour ses camarades de travail, tu vois, pendant la récolte des olives, la récolte du tabac, etc. Des travaux très épuisants, hein, qui se font vraiment des groupes de 50 travailleurs. Donc elle chantait pour les siens. Et donc, évidemment, dans un monde subalterne comme celui du sud de l'Italie, aller en prison, ça n'a rien d'exceptionnel, quoi. Tout le monde, enfin, parmi les pauvres, tout le monde a toujours eu un jour ou l'autre quelqu'un en prison. Pour des bricoles, des fois pour des trucs beaucoup plus chauds.
Et puis, il n'y a pas de garde à vue aussi en Italie. Toujours aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont en prison, même pour quelques jours. Ou pour...
Ah oui, absolument. Hein. Et. Non, on est dans l'arbitraire le plus total, comme dans les banlieues en France, quoi, là, je veux dire. D'ailleurs, puisqu'on parlait de crimes policiers, tu vois, j'évoque dans le bouquin un peu les centaines et centaines de paysans qui ont été assassinés par les carabiniers pendant les mouvements d'occupation des terres après-guerre, quoi, dans les années 50. Quoi. Je dis, la République italienne a tué plus de paysans que le fascisme, qui en avait déjà tué pas mal. Donc, ouais, on est vraiment dans un monde, quelque part, qui est un peu l'immense périphérie, l'immense banlieue de l'Italie moderne, quoi. Donc voilà, elle chante Nicetta Petracchi qui nous interprète avec cette voix de tête typique des femmes du Salento, qui nous interprète ce chant de prison sur lequel nous allons prendre congé de l'aimable assistance.
Très bien, on s'occupe.
Merci.
Merci beaucoup.
Di niente.
cancelli inferno naturale. E in cancelli inferno naturale. Na grazia uliade di Oh my.